Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Quelles sont les news du monde du cloud et du DevOps en ce mois d'avril 2022? C'est ce que l'on va voir dans cet épisode d'Actu DevOps.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps. Actu DevOps, c'est, comme tu le sais, ton émission de veille cloud et DevOps qui est mensuelle, puisqu'on la publie tous les mois. Tous les mois, tu as pas mal d'actualités. Justement, pour aider le podcast à se diffuser, parce qu'il n'y a pas de découvrabilité sur le podcast, contrairement à YouTube, si tu nous regardes sur YouTube, si tu nous écoutes en podcast, tu peux le partager, en fait, ça nous aidera à le diffuser, à l'envoyer à tes collègues, sur ton Slack, par mail, enfin, ce que tu veux, par pigeon voyageur aussi, ça peut marcher, tu lui accroches une petite clé USB, et puis, ça va aller. Tu peux aussi prendre des bouts, parce que ce podcast, il est en licence libre, en CC by SA, et donc, tu peux le découper, le mettre un peu où tu veux, puisque c'est notre don à la communauté, ce podcast. Pour parler avec moi d'actualité, j'ai ce soir Damir. Bonsoir Damir.
Bonsoir à vous toutes, à toutes et tous, excusez-moi. Et si jamais vous voulez envoyer du coup et partager le podcast par pigeon voyageur, n'oubliez pas qu'il y a une RFC pour ça, la fameuse RFC 1149 qui existe.
Merci Damir pour cette précision. J'ai aussi René. Bonsoir René.
Bonsoir à tous et toutes.
Et toutes, oui, tout à fait. N'oublions pas toutes, parce qu'en plus, il y a des femmes qui nous écoutent et qui nous regardent. Et bonsoir, Erwan.
Bonsoir.
Et si tu veux en savoir un peu plus sur nous, l'un de nous quatre, tu as aussi des épisodes de podcast dédiés sur chacun d'entre nous. Tu as les liens dans la description. Ceci fait, je pense que l'on peut commencer. Et c'est Erwan qui va nous parler d'un sujet un peu lourd. Pour commencer, et on s'est dit qu'on allait commencer par ça pour pas plomber la fin du podcast.
Oui, alors vous parlez d'un petit drama qu'il y a eu sur NPM en relation donc avec la guerre en Ukraine. Alors déjà, NPM, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le gestionnaire de package par défaut pour Node.js, un peu comme pip ou apt. Ça vous permet d'installer un module ou un package de la version que vous voulez avec ses dépendances. Il y a un client en CLI et vous parlez à un repository distant qui contient tous les packages et modules en question. Sachant que le repository un peu officiel, c'est le registry.npmjs.org sur lequel vous retrouvez une grosse partie de ce que produit la communauté et qui est un peu décrié parce que justement, on peut pousser un petit peu tout et n'importe quoi dessus et on va voir ce qui s'est passé. Donc vous allez me demander pourquoi, enfin quel est le rapport avec l'Ukraine. Eh bien il y a le mainteneur d'un package relativement populaire, donc le package c'est Node. -IPC, le mainteneur c'est, alors j'ai son nom GitHub, j'ai oublié de noter son vrai nom, mais c'est Ria Evangelis sur GitHub, donc populaire parce que le Node-IPC c'est quand même téléchargé plus de 73 millions de fois, donc c'est quand même un truc un peu sérieux. Il a commencé par créer deux nouveaux packages NPM qui n'avaient pas de dépendance, qui n'avaient rien. Le seul truc c'est que l'espèce de script de pré-install créer un fichier sur le bureau des gens qui y installaient, juste pour dire, enfin pour protester contre la guerre en Ukraine et pour protester contre la guerre en Ukraine. D'ailleurs, l'un des deux packages s'appelle Peace Not War. L'idée qui était derrière, donc, c'était pour montrer son soutien, mais aussi il voulait rappeler à quel point il faut aller faire attention avec les packages NPM et justement ces fameux scripts de pré-install ou de post-install qui peuvent faire des choses des fois un petit peu non attendues. Et puis, aux alentours du 8 mars, il a poussé une nouvelle version de son fameux package populaire Node-IPC. Cette fois, le script de préinstall, il faisait pas juste créer un fichier sympa sur le bureau pour montrer son soutien à l'Ukraine, mais il faisait une espèce de résolution, un GeoIP de votre de l'IP public de la personne qui installe le package, et si l'IP était russe, était déterminé comme russe ou biélorusse, le script en question commençait à réécraser des fichiers au fur et à mesure en y mettant des cœurs dedans. Donc il effaçait pas les fichiers, il les réécrasait juste. Forcément, ça peut quand même tout péter, donc il y a eu un vent de panique assez important. Parce que vous allez imaginer le truc qui arrive tout de suite, c'est les gens les projets, les dépendances qui n'ont pas pin les versions, pouvaient se retrouver donc à installer ce truc malgré elle. Alors bien sûr, ça ne faisait rien de particulier si l'IP résolu n'était pas russe ou biélorusse. Cependant, il y a des gens qui ne pinant pas leur version, pouvaient se retrouver malgré tout avec un truc un peu suspect dans leur code, et donc dans leur dépendance. Et donc, forcément, gros vent de panique. Alors, les versions impactées, c'est la 10.1.1 et la 10.1.2, donc ont toutes été publiées au 7 ou 8 mars. Elles ont été retirées du repository officiel que je citais au début au bout de 24 heures. Mais donc, ça veut dire que pendant 24 heures, il y a plein de gens qui l'ont quand même téléchargé. Et donc, en fait, le drama forcément est né. Parce que si on peut imaginer comprendre les motivations pour faire ça, elles sont totalement déplacées et irresponsables. Donc forcément, je vous laisse regarder les threads sur GitHub sur le sujet, mais il y a quand même pas mal de gens qui insultent le mainteneur principal. Et en fait, cette histoire a fait écho à des histoires un peu similaires qu'il y a eu aussi dans le monde, dans les packages NPM, tout ça, avec le package Colors et le package Fakers. Et Colors, ça avait pas mal fait parler parce que, en gros, le mainteneur, il avait introduit des boucles infinies conditions n'étaient pas réunies lorsque vous utilisez son package, quoi. Donc en gros, il avait volontairement fait en sorte qu'il cassait des sites pour des gens qui mettaient à jour son package. Et donc tout ça, déjà, juste, je pense qu'on mettra en lien, il y a un document qui a été fait par Snyk, qui est une startup qui est spécialisée dans la cybersécurité, qui retrace un peu tout ce qui s'est passé autour de ce package, comment ça a été détecté, etc., qu'est-ce qui a été fait et tout, etc. Mais bien sûr, quand on voit cette histoire, on ne peut que rappeler que c'est important de pin vos dépendances et de ne pas mettre de points les toasts. Ça vous permet, au-delà de la bonne pratique, ça vous permet d'éviter ce genre de choses. Cette histoire, elle remet encore en avant que sur NPM, la qualité de ce qui est pushé publiquement est quand même très controversée. C'est quand même nettement, j'ai pas écho de choses comme ça qui soient passées, par exemple sur Debian. Ça me permet aussi de rappeler qu'il y avait un talk qui est hyper intéressant qui a eu lieu au Best of Web de Thomas Crevoisier qui parle justement de toutes les dingueries un peu qu'il a vues dans les packages NPM et toutes les choses un peu suspectes qu'il y a eu dans ce genre. Mais au-delà du drama, etc., moi, et c'est là où j'aimerais avoir aussi votre avis, c'est ces histoires, moi, d'un point de vue perso, je trouve que ça décrédibilise vachement le milieu de l'open source. Je sais que autour de cette table, tout le monde est quand même très attaché à ça. Et du coup, je voulais avoir votre avis par rapport à ce drama, par rapport à l'image que ça va véhiculer. etc. René, ça te dit quelque chose?
Ouais, bah, alors, par quoi commencer? Bah, disons que même si tu pines, premièrement techniquement, même si tu pines pas forcément tes versions, enfin c'est pas censé aller jusqu'à la production, enfin j'espère que les gens font quand même des tests. Et on peut imaginer quand même que c'est attrapé avant de passer en production. Après, quant au l'aspect un peu plus open source, logiciel libre, bah c'est un petit ce que le gars a fait en l'occurrence, c'est relativement contraire à l'esprit du logiciel libre. Parce que dans le logiciel libre, on n'est pas censé le partage, il est global, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas censé faire des restrictions pour un quelconque usage, en fait. Donc, même si on n'est pas forcément d'accord avec l'usage qui va être fait du logiciel libre, par exemple, ça peut être le cas dans le cas d'utilisation militaire, dans l'esprit. Alors après, voilà, les licences qui sont aujourd'hui utilisées dans le logiciel libre, voilà, elles sont pas censées limiter cet usage-là. C'est aussi pour ça que la SSPL, qui est utilisée par Elastic, qui limite l'usage, par exemple, au cloud provider, elle n'a pas été reconnue par l'OSI, en partie à cause de ça, parce que c'est une restriction d'usage pour une certaine catégorie de personnes, et c'est voilà, c'est pas dans l'esprit, quoi. Donc à la limite, pour moi, c'est presque plus grave que le gars qui a volontairement changé le comportement de son logiciel, parce que ça, à la rigueur, le mainteneur a le droit éventuellement, même si c'est pas forcément futé, de changer les fonctionnalités de son logiciel et voilà, faire en sorte qu'il fasse des choses pas forcément ce que les utilisateurs attendent. Bon, je vais pas dire que c'est bien, mais à la rigueur, c'est moins, enfin, quelque part, ça me dérange moins que ce qui est fait là, quoi. Voilà un peu ce que je peux en dire.
Moi, je vais prendre la parole, du coup, pour éviter qu'on s'étende sur le sujet précédent que citait Erwan. On en a longuement parlé, en fait, dans Actu DevOps de janvier 2022. Donc, je vous mets le lien en description pour avoir notre avis sur les actes de grève. Je vous mets aussi le lien des 12 facteurs, notamment sur comment épingler vos dépendances. C'est important. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est un acte de guerre, clairement. On est là sur un citoyen qui a voulu faire un acte de guerre et que il a en effet confondu son rôle de mainteneur à son rôle de citoyen peut-être concerné, je ne sais pas, qui a voulu faire un acte de guerre. Et le souci que moi je vois, outre le fait de justifier ou pas la guerre, c'est que en faisant ça, il a peut-être pas réfléchi aux impacts, et notamment aux impacts des gens qui étaient sur place en Biélorussie et en Russie, qui n'étaient pas forcément engagés dans la guerre, en fait. Notamment, je peux penser aux journalistes, aux militaires, ou à d'autres personnes qui ne sont pas directement liées à ça, et ça fait des dommages collatéraux. Notamment les entreprises qui utilisent ces dépendances, bah, est-ce qu'elles sont engagées ou pas? Bon, là, ça reste... ça reste à la, comment dire, à la discrétion de chacun, mais moi je sais pas, parce que d'un côté, comme le dit René, c'est pas très clean vis-à-vis du libre. De l'autre, moi je suis assez attaché à la propriété du code et au fait que ce mainteneur-là, il est quand même quelque part propriétaire de son code. Alors je sais pas combien il y a de personnes qui participent à ce logiciel. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Légalement, certainement. Est-ce que moralement, c'est bien? Je pense sincèrement que non. Moi, je reste mitigé là-dessus, outre le fait, comme ce qu'on a dit, protégez-vous, épinglez vos versions, faites des tests, mettez ça dans des environnements hors prod, et puis priez pour que ça n'arrive pas, quoi. Damir ?
Oh, bah, globalement, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Hein. C'est vrai que là, c'est une situation qui est un peu embêtante. Après, il a quand même limité l'impact. Donc, disons que j'ai là-dessus peut-être plus de, enfin, pas de tolérance, mais je sais qu'il se passe des choses pas très jojo. Et après, on reste après tout que des humains derrière, donc je pense qu'à un moment aussi, bah, des personnes peuvent aussi craquer, voilà, et faire des actions comme ça. Donc ouais, dans l'idée, tester de toute façon ce que vous faites, j'ai envie de dire, même si vous taguez pas toutes vos dépendances, ça peut arriver aussi d'avoir des systèmes où vous buildez en permanence les dernières pour vérifier qu'elles ont pas de problème, etc. Ça montre encore une fois l'importance de tester au-delà de pin des choses. C'est vraiment tester, vérifier que ça marche, qu'il n'y ait pas d'impact, etc. Qu'il y ait aussi des scans de sécurité si possible. Ça faisait quoi exactement? Ça créait un fichier, c'était ça? Maintenant, ça marchait.
Alors, la toute première version, c'était ça. Ça te mettait un fichier sur ton bureau, en gros, de celui qui lançait la commande. Mais par contre, la version qui était vraiment, entre guillemets, dangereuse, elle réécrasait des fichiers sur lesquels, dès que tu avais le droit d'écriture, ça mettait des cœurs dans le fichier.
Voilà, ben ça typiquement c'est le genre de choses, truc très simple, si vous avez un cycle applicatif, vous avez des environnements de test, etc., et que vous arrivez à le que vous avez une étape où vous le buildez, vous le faites tourner sur une machine isolée, dans un environnement non prod avec un EDR par exemple, qui va permettre de faire des vérifications niveau sécurité, c'est quelque chose qui va être détecté assez rapidement, c'est des choses qu'on sait détecter aujourd'hui. Donc encore une fois, moi j'insisterai plus là-dessus, blindez vos chaînes, parce que derrière, encore une fois, ça reste des humains, hein. Si quelqu'un soit malveillant totalement, ou juste pour une autre raison, un problème peut arriver. Donc là, je peux que conseiller encore une fois d'aider les choses. Et pour le coup, PIN, c'est intéressant parce que moi j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un. C'est vrai que c'est bien, mais d'un autre côté, c'est encore un autre débat. Quand on PIN toutes les dépendances, il y a toujours un moment où personne ne veut s'embêter à les mettre à jour. Et on se retrouve avec des choses qui sont outdate. Donc c'est un autre grand débat, ça aussi, de comment gérer ça pour éviter d'être outdate totalement. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi, la vraie solution, ça reste le test en continu là-dessus.
Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est? Tu as utilisé le terme EDR ou ODR?
EDR, c'est Endpoint Defense Point. C'est les nouvelles générations d'antivirus, j'en ai déjà parlé, je remettrai un lien. Et en fait, c'est des antivirus qui, plutôt que vérifier des signatures, parce que globalement, des antivirus, ça marche avec signatures classiquement, donc des gens reportent, comme des virus humains, des signatures, des traces de ce qu'ils peuvent retrouver sur votre ordinateur. Et si jamais votre antivirus scanne un fichier et voit cette trace, ce hash en fait, de fichier, correspond à quelque chose qui est un virus, il va l'isoler. Un EDR, ça fonctionne pas de la même manière. Généralement, ça marche avec un système d'IA plus ou moins de machine learning, et ça va vérifier en fait le comportement global de votre PC. Par exemple, si jamais votre PC reçoit un CryptoLocker et que l'EDR il remarque que d'un coup, bizarrement, en tâche de fond, il y a une grosse partie du disque dur qui commence à être chiffrée, ben il va couper tout, il va kill tout de suite le process parce que c'est pas un comportement normal s'il n'a pas été autorisé explicitement. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peuvent aider aussi à résoudre et à détecter ce genre de problème.
Et toi, Erwan, tu t'es pas exprimé. Qu'est-ce que t'en penses finalement?
Je trouve que, enfin, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais effectivement, moi, ça m'a fait penser à la question. Je me suis dit, ok, en fait, si au-delà de tester, il y a le côté normalement, l'excuse, c'est bah ouais, mais c'est open source, donc tu peux regarder comment c'est fait, etc. Et en fait, on sait très bien que on fait pas ça c'est pas possible de faire ça sur tout. Et donc du coup, il y a forcément, même si on teste, etc., t'as un espèce de contrat de confiance, quoi, quelque part. Et c'est vrai que avec ce genre d'action, je comprends que tu casses un petit peu ce truc-là. Par contre, effectivement, quoi qu'il arrive, je pense que c'est quand même bien de PIN, hein, mais je suis d'accord que tester, comme Damien l'a décrit, ça reste la meilleure solution pour jamais avoir de surprises dans des environnements où si ça casse ou quoi que ce soit, s'il y a un truc chelou, au moins tu prends pas de risque avec quoi que ce soit, et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'effort, quoi. Et c'est pas facile. Mais du coup, je voulais juste rajouter très rapidement, je vous invite vraiment à regarder le talk du gars de Best of Web, parce que c'est rigolo, il y a vraiment plein de trucs hyper... Je sais pas si c'est propre à NPM, je savais que ça revenait très souvent dans les trolls qu'il y avait un peu à boire et à manger dedans, mais dans le talk, je vous spoil pas, on voit des choses vraiment très surprenantes, donc... Ouais, donc voilà, excuse-moi Damien, je t'ai coupé.
Ouais, non, mais c'était juste pour dire, après, en fait, ce que je dis aussi pour l'histoire de ping les packages, c'est que si tu pars dans une idée où on peut être très vicieux, c'est que la personne peut très bien republier le package avec le même tag, l'écraser et mettre quelque chose de compromis dedans. Donc c'est pour ça, je préfère en fait passer du principe que dans tout cas, il peut avoir une couille et faire du surtest, entre guillemets, que l'inverse. Après, c'est les deux sont très des bonnes approches.
T'as raison, mais je crois qu'il y a des... Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais tu vois, il me semble que, par exemple, ce qu'on utilise avec Pip, je crois que tu peux pas réécraser une version. Je veux pas dire de bêtises, mais dès que tu publies quelque chose, tu es obligé de...
Honnêtement, je parlais en manière générale, sans parler de langage spécialement.
Oui, pardon.
Donc, pour Pip, j'ai un doute. Honnêtement, je sais pas. Mais il me semble qu'avec certains langages, tu peux totalement écraser.
Ouais. Non, mais t'as raison. Bah, le meilleur exemple, c'est les images Docker.
Oui, les images Docker, ça marche très bien là-dessus.
Les images Docker, Git, vu qu'on peut changer le tag. Bon, bref, on va peut-être passer à la suite. Du coup, René va nous parler d'un logiciel que j'aime bien.
Oui, puis dont on connaît l'auteur. Donc, je vais parler un petit peu du logiciel Scaphandre, qui est un agent de métrologie qui permet de mesurer les consommations d'énergie de nos serveurs. Et donc ce logiciel est fait en grande partie par un contributeur des compagnons du DevOps, qui est Benoît Petit, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc voilà, je me permets de lui faire un petit peu de visibilité. Et en fait, il a travaillé récemment et il y a un article qui est sorti avec les gens de la BBC, où ils ont donc le lien sera dans les notes. Je vous encourage à lire, et c'est un article que j'ai trouvé intéressant, où les gens maintiennent un environnement cloud sous OpenStack, et ils ont mis en place Scaphandre pour justement essayer de faire des mesures de consommation électrique de leurs applications, et essayer de commencer à dresser un tableau de bord des consommations pour les applications. Voilà, donc ça expliquait un petit peu la démarche qu'ils ont suivie, et puis ils sont allés assez loin en s'appuyant sur des API, non pas pour aller jusqu'à la consommation, mais aussi lier ça avec les émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà, je vous encourage à jeter un œil à cet article-là, parce qu'il est intéressant. Et je pense que c'est intéressant que les gens voient ce qui a été fait ici pour peut-être demander aussi, je sais que Benoît travaille sur le sujet, à ce que d'autres fournisseurs de cloud, etc., donnent un peu plus d'accès sur ce type de métriques, de manière à ce qu'on puisse mettre ça en place un peu partout. Voilà, c'était... Donc le lien sera dans les notes, et voilà, un article fort sympathique. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un œil ?
Moi toujours pas, mais je suis mon mauvais élève. J'ai eu pas mal de choses en ce moment qui m'ont pris du temps. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je teste Scaphandre. Et en plus là c'est cool parce qu'OpenStack pour le coup est quand même aussi utilisé comme base, me semble, sur pas mal de petits cloud, de fournisseurs cloud. Donc ce qui serait bien après, c'est qu'eux prennent aussi la main pour l'intégrer directement, possiblement, tu vois, dans leur dashboard ou quelque chose comme ça. Ça pourrait donner des choses très cool. Donc je suis curieux de voir ça, et j'espère que ça va être intégré nativement. Possiblement, ouais, moi j'adorerais avoir sur les clouds publics, du coup, à ce point de vue-là, un onglet dans l'onglet consommation, au-delà des crédits, peut-être un onglet empreinte carbone ou quelque chose comme ça pourrait être très intéressant en fait.
Bon, en effet, en tant qu'éditeur de SaaS, c'est un truc que j'aimerais énormément pouvoir intégrer Scaphandre sur mes SaaS et pouvoir générer en fait comme ça des rapports pour pouvoir dire à nos clients et prospects, ça c'est notre empreinte. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas intégrable avec Scaleway, mais je vais faire du lobbying auprès de Scaleway pour qu'ils s'intéressent à Scaphandre. Et c'est bien que ce soit fait avec OpenStack, parce que comme OpenStack, comme tu le dis, Ademir, c'est quand même bien utilisé, vu qu'il y a au moins deux cloud providers et un qui veut devenir cloud provider qui l'utilise. Il y a OVH qui utilise OpenStack, il y a Opla Cloud qui utilise OpenStack, et il y a Nuage qui est sur base OpenStack, mais qui pour moi n'est pas encore un vrai cloud provider, puisqu'il n'y a pas toutes les briques encore vraiment abouties. Ça, c'est mon avis personnel. Mais du coup, c'est bien, parce qu'on va pouvoir avoir des infos comme ça de manière plus importante, et j'espère que ça va se diffuser en Europe, et puis en dehors d'Europe aussi.
Après, ce que je peux ajouter, c'est que Benoît travaille aussi sur avec un autre collectif qui s'appelle Boa Vista. Je sais pas, il en avait peut-être déjà parlé ici, mais l'idée c'est avec ces personnes-là, ils essayent d'avoir une espèce de base de données un peu représentative en fonction du matériel, quelle est la consommation, et donc d'essayer de mettre en place un mode dégradé pour essayer d'estimer les consommations là où, où on ne peut pas les mesurer. Donc sur des cloud providers où on ne peut pas mesurer. Voilà, ça serait une alternative pour pouvoir quand même avoir quelque chose, même si in fine sera peut-être moins précis, quand même avoir une idée de la consommation et donc des gaz à effet de serre générés, etc., etc.
Erwan, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, j'ai jamais eu l'occasion non plus d'utiliser ce qu'avant, mais c'est rigolo. J'en reparlais il y a pas très longtemps avec quelqu'un. Mais comment dire, ouais, je pense que c'est ce que vous avez dit, hein, Benoît, il aura gagné son pari quand des providers et des gros SaaS intégreront nativement les métriques qui sont générées, parce que c'est là où ça aura vraiment du sens, et c'est enfin je sais pas s'ils auront vraiment intérêt à faire ça, mais en tout cas c'est là où ça sera intéressant.
Moi, je pense que si, ils auront intérêt à le faire et j'espère qu'ils le feront parce que c'est vraiment important pour notre avenir, je pense.
Si ça pouvait devenir un critère de choix, ça serait chouette.
J'ai pas dit que
Oui.
j'étais contre l'idée, hein, mais
Non, non.
je me dis. Mais oui, je suis d'accord. Il faudrait que ça rentre aussi en considération dans les choix des solutions, en effet. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est malheureusement encore un peu loin.
Tout à fait. Bah, je vous propose qu'on passe à la suite, sauf si vous voulez qu'on continue sur Scaphandre. Non, bah, apparemment, et bah, dans ce cas-là, allons-y. Et cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Alors, où sont passés les créateurs de Docker? Eh bien, je peux vous dire qu'après une petite enquête, je les ai retrouvés. Solomon Ike, vous savez, le petit Frenchie qui a créé Docker, vient de lancer une nouvelle boîte et un nouvel outil libre. Il n'est pas seul parce que Sam Alba et Andrea Luzzardi, qui sont aussi des anciens de Docker, sont avec lui. Le nom de ce projet, c'est Dagger, ou poignard en français. Son objectif, c'est moderniser le développement des pipelines d'intégration continue. Au lieu de coder des pipelines avec des scripts jetables, il nous propose de jouer au Lego en créant des actions réutilisables. C'est vrai que pour en faire beaucoup, c'est assez fastidieux d'écrire des pipelines d'intégration continue. Ils veulent donc offrir un kit de développement CI/CD et techniquement basé sur une stack à base de build kit et de langage Q. Alors je pense que ça se prononce comme ça. CUE pour configurer, unifier, exécuter. Les actions, elles peuvent être partagées et réutilisées en toute sécurité grâce à un système de gestion de package complet. Et ce que nous promet Ike, c'est une véritable expérience de développement logiciel. Par exemple, s'il y a une action que vous aimez et que quelqu'un d'autre a écrite, vous pouvez l'importer. Si vous voulez, vous pouvez regarder le code source de cette action et qui est dans le même langage que vous connaissez déjà, le fameux Q. Cette action est probablement aussi construite en combinant des actions plus simples et plus spécialisées. Mais surtout, et c'est là que je trouve que le projet est ultra intéressant, c'est que Dagger promet des pipelines qui peuvent être testés localement, puis exécuté sur n'importe quel système d'intégration continue compatible avec les conteneurs. Je sais pas vous, mais moi je perds énormément de temps à pousser mes scripts de CI et à attendre le résultat sur la console. Donc c'est plutôt bénéfique. Dagger, c'est pas censé remplacer CircleCI, GitHub Action ou GitLab CI. C'est pensé plus pour apporter une couche supplémentaire et donc rendre agnostique la CI de l'outil qui la fait tourner. Alors, dans l'idée, j'ai trouvé ça assez proche de ce que je faisais avec mon projet GitLab CI Template ou de ce que propose le projet R2 DevOps. Alors, j'ai regardé un petit peu plus comment ça s'intégrait avec GitLab CI. C'est hyper simple. On lance un job, on installe Dagger et on lance la ligne de commande Dagger qui va exécuter les actions. Alors, grosso modo, pour moi, ça remplace les parties script, before script, after script, si vous connaissez, des jobs. Mais pour le reste, comme les règles, les conditions, artefacts, etc., bah, ça reste encore dédié à l'intégration continue que vous utilisez. Mais ça peut être une bonne chose, par exemple, pour enchaîner plusieurs actions. Le côté commercial, Dagger sera une plateforme hybride avec un moteur open source et un service cloud optionnel. A priori, ils ont tiré parti de leur expérience sur Docker et expliquent bien que si on veut une communauté de développeurs importante, on doit avoir un véritable projet open source. Mais si on veut que cette communauté continue à prospérer, alors on doit connecter cette communauté à une seule vision produit et non pas une dizaine de milliers de visions de produits différents. Dagger, pour moi, ça débute et c'est déjà prometteur. Ils annoncent déjà vouloir lever la modique somme de 20 millions de dollars. Donc, cher auditeur, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse un live coding de découverte de Dagger. Et vous, vous en pensez quoi ? Damir, tiens, je te laisse la parole.
Moi, du coup, j'ai encore fait le mauvais élève. Ça fait depuis septembre 2021 que j'ai un accès à la base qui est en bêta. Et je m'étais dit, je vais faire un article dessus parce que la promesse est intéressante. Et j'ai pas eu le temps de tester. Mais oui, la promesse est intéressante. Ils promettent notamment et surtout, moi, ce qui mettait beaucoup en avant à l'époque, c'était l'arrêt du vendor locking aussi au niveau des solutions de CI/CD. Après, je reste assez dubitatif sur en réalité ce que ça donne et les limitations qu'il peut y avoir, notamment sur voilà l'intégration et choses comme ça, ce que ça apporte vraiment. En vrai, il faudrait que je teste pour me faire un avis, mais j'ai eu un peu de mal à me faire un vrai avis technique avec ce que j'avais lu. Après, la doc a sûrement dû être améliorée depuis, mais à l'époque, c'était une doc qui était bien. Mais qui était quand même plus, qui n'était pas un doc d'un produit fini, donc c'est sûr que c'était plus compliqué. Mais ouais, j'attends de voir ce que ça va donner. Après, moi, le vendor locking, zéro vendor locking, j'y crois pas, tout simplement parce que le vendor locking, à un moment, t'en as forcément, ne serait-ce que sur ta solution. C'est-à-dire, tu vas être vendor locké avec Dagger et pas avec autre chose. En soi, je parle dans la théorie. Donc à voir. Je préfère pas trop me prononcer dessus parce que je ne sais vraiment. Pas quoi en penser pour l'instant, à part dire que la promesse est belle et faut voir ce que ça va donner derrière. Après, espérons qu'ils aient plus de chance à trouver leur modèle économique, ce qu'ils ont eu avec Docker.
Ils ont de l'expérience maintenant.
Vas-y René, t'as la parole, dis-nous ce que t'en penses.
Alors, j'ai un petit peu regardé, après j'ai pas essayé à fond. Je pense que la proposition elle est sympa. Je pense que le gros point fort c'est de pouvoir tester localement et donc du coup d'avoir une boucle de feedback plus rapide. Enfin, ce que tu disais Christophe, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on teste une CI, ben à chaque fois ça prend quand même du temps de faire une modification, passer dans la CI, revenir, voilà, c'est la corriger, voilà, regarder les logs. Donc là c'est vrai que je pense qu'il y a un gain potentiel à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'ils ont un peu comme sur Docker, ils ont cherché à faire quelque chose d'assez simple dans l'utilisation, en tout cas comme tu disais de la command line, etc. Ça a l'air plutôt simple à ce niveau-là. Après, petit bémol, je dirais, le langage Q, ça a pas l'air super, la syntaxe a l'air un peu, enfin pas des plus faciles. Alors après, est-ce que c'est pire qu'YAML ou pas? Les juges. Et puis pour l'instant, ben, le support du Q, c'est exclusivement sous Go. Donc ça veut dire que si on veut parser ce type de fichier-là, ça oblige à utiliser des librairies Go pour le moment. Voilà. Bon, ça c'est un. Pour l'instant, c'est peut-être pas très grave, mais voilà, c'est un petit bémol que j'ai noté. Et ben, je laisse la main à Erwan, s'il veut nous en dire plus.
J'étais tombé sur la news récente, donc probablement liée à les différentes coms qui ont été faites autour du projet. Je trouvais aussi la promesse hyper intéressante, surtout comme ce que vous citiez sur le fait de tester localement. Enfin, pour moi, ça c'est game changer. Hein, c'est quand je vois à quel point c'est pénible sur GitLab de faire des tests, ou même je me souviens à l'époque. quand j'étais sous Jenkins, on avait des espèces de jobs qui étaient là que pour tester justement nos pipelines, etc. Donc ça nécessitait une mise en place un peu particulière, un peu relou. Donc la promesse là-dessus, elle est, moi je la trouve hyper hyper intéressante, mais du coup pour le moment, pour moi, c'est le sujet, il est au stade de c'est prometteur, tout le monde a l'air de dire que c'est cool, mais en vrai je connais personne qui a vraiment testé un peu et qui peut faire un retour pour dire en fait pour pouvoir dire ouais non ça vaut le coup de creuser ou là ça vaut pas le coup. C'est rigolo parce que d'autres gens m'en ont parlé aussi personne, en tout cas dans mon entourage, s'est vraiment lancé pour de vrais premiers tests. Donc, je vais pas mentir, moi, j'attendrai des feedbacks de gens avec qui j'ai déjà travaillé ou quoi là-dessus pour voir si ça vaut le coup de se lancer. Mais en tout cas, les gens qui sont derrière le projet, la promesse et même le modèle, ça a l'air plutôt cool, quoi. Donc au moins gageons que.
Après il y a.
Vas-y.
Je voulais dire qu'il y a Stéphane Robert, si je dis pas de bêtises, sur son blog qui en a parlé, qui a commencé à tester et donc qui a fait des retours. Si tu veux aller voir, ça c'est pas mal.
Je mettrai le lien de son blog si je le trouve. Moi, j'ai regardé, j'ai pas testé encore, j'ai regardé un peu la doc. Donc la doc, comme le dit Damir, est un peu sommaire. Pour moi, j'y vois un mec amélioré. Grosso modo, je vais dire ça, un mec amélioré, ça veut dire que, grosso modo, on va enchaîner les actions. J'ai pas bien saisi s'il y avait une notion de parallélisme et si on pouvait justement exécuter plusieurs trucs en parallèle pour faire des chemins. Par contre, le désavantage de ça, on va perdre en fait la visualisation de notre pipeline dans notre outil d'intégration continue, puisque en fait tout va s'exécuter dans un seul job, d'après ce que j'ai compris. Donc on va avoir une bille dans notre intégration, dans notre pipeline, et puis c'est tout. Sauf si évidemment on fait des chemins, et dans ce cas-là, on utilise encore notre intégration continue pour faire les dépendances des jobs. Et c'est juste comme je disais, en effet, les scripts qui sont à l'intérieur, qui sont gérés par Dagger. Donc moi je dis pourquoi pas, il faut tester, ça a l'air sympa. Après c'est vrai que c'est juste pour moi une notion améliorée de make, de rake ou d'autres outils de gestion de tâches, voire de bash, parce que moi je fais tout en bash à l'intérieur de mes intégrations continues. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Non, mais c'est. Je pense que tu as raison. Moi, j'attends de voir ce que ça donne. J'ai peur en fait que ce soit très limité, que ça marche peut-être bien pour les petits use cases où ils sont 2-3 développeurs à fond à travailler dessus. Mais dès que tu vas avoir des choses un peu plus compliquées, qui vont demander des trucs un peu custom sur la CI/CD, potentiellement avec des triggers au milieu de la CI pour renvoyer des appels REST sur la même CI/CD, des choses comme ça va devenir très vite casse-gueule. C'est à tester. Après, l'idée est pas mal. Même si je trouve ça potentiellement un peu dommage de pas pouvoir. Disons que là, si demain je devais faire un truc qui marche sur le PC des devs, je pousserais plus à mettre un makefile ou un truc comme ça pour gérer possiblement le lancement des tâches, ce qui est plus standardisé, ce qui nécessite pas Docker et tout ce qui va derrière que Dagger pour l'instant. Mais après, peut-être que l'avenir me fera changer d'avis. Hein.
C'est vrai, c'est ce que je pensais aussi. Le truc du makefile, c'est que tu es obligé d'installer les dépendances, alors que là, j'ai l'impression que, enfin, comme ça tourne dans des conteneurs, ça télécharge juste tes conteneurs et puis ça exécute tes conteneurs. Bon. Après.
Ton makefile, il peut appeler un conteneur.
On va mettre un dagger qui lance un conteneur et dans le conteneur, on met un makefile qui va construire le truc et voilà, comme ça, tout le monde est heureux.
Exactement.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bah, du coup, en parlant de heureux, c'est toi, Damir, qui va être heureux parce que tu vas nous parler de ta news qui apparemment tu as trouvé au pied.
Non, je suis quelqu'un de sérieux, comme je le disais, je trouve toujours les choses bien en avance. Non, pour le coup, je vais vous parler d'une entreprise que vous aimez sûrement beaucoup. En tout cas, si vous la connaissez, vous l'adorez. C'est Atlassian. Donc, Atlassian, on connaît pour la plupart ce que c'est. On connaît notamment dans leur suite software Jira, qui est le gestionnaire de projet, que là aussi tout le monde adore pour sa rapidité, sa légèreté, son efficacité. Ce n'est pas du sarcasme, bien sûr. Mais au-delà de ça, ils ont aujourd'hui une galaxie de produits, en fait, qui est notamment disponible en SaaS, notamment Confluence, Jira, qu'on a déjà cité, Trello, Bitbucket, qui est Trello, qui est un système de Kanban, Bucket, qui est un système qui permet de faire simplement un serveur Git, et notamment aussi Ops Genie, qui permet de gérer les astreintes et les calls en astreinte, etc., sur les différents téléphones et ce qui s'ensuit, et tout ce qui est status page, etc. Donc ils ont une galaxie de produits qui est quand même bien implémentée sur le milieu de la tech aujourd'hui et que beaucoup de monde utilise. Moi, je sais pas pour vous, mais je l'ai utilisé une majorité du temps en entreprise, je l'ai utilisé. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, c'était le 4 avril, si je me trompe pas, ils ont eu un petit incident qui est dû, pour une fois, pas un hack, pas un problème un peu exotique, mais un truc très simple qui peut nous arriver à tous. C'est un script qui a été lancé et qui a fait planter des services pour une partie de leurs clients et qui a planté, du coup, alors je crois que c'est 400 clients, ce qui à l'échelle Atlassian est très petit, mais ça reste quand même 400 clients professionnels qui sont aujourd'hui bloqués et qui ont plus accès à certains services, notamment Jira, notamment OpsGenie, notamment Confluence. Donc, vous imaginez que si vous utilisez ça avec toute votre base documentaire sur Confluence, potentiellement Jira pour gérer votre ticketing et OpsGenie pour votre astreinte, vous vivez un temps difficile, on va dire ça comme ça. Et là, ça fait 7 jours qu'ils essaient de restaurer ces données et que visiblement, ça avance, mais à un rythme très lent. Ils ont à peine arrivé à rebuild pour l'instant 33% des personnes qui ont été impactées, ce qui est extrêmement peu. Et pour le coup, ils sont pleinement en train de travailler là-dessus. Ils disent qu'ils ont toutes leurs équipes, bien sûr, qui travaillent dessus pour restaurer le problème, pour régler le problème. Mais là où c'est intéressant quand même, c'est qu'on se dit que on peut faire confiance. Et c'est là où la news, je la trouve intéressante. On dit toujours de scripter les choses, ce qui est très bien. Faites attention quand même à la qualité de vos scripts. Faites attention à bien gérer les erreurs. Faites attention à bien aussi, faire les bonnes pratiques de développement quand vous développez des scripts, notamment de backup ou de choses comme ça qui peuvent être assez sensibles. Et ça va très vite de faire une erreur. On a déjà eu un truc qui est moins professionnel, mais qui est déjà arrivé. C'était un jeu vidéo, je ne sais plus lequel. C'était un launcher ou un jeu vidéo. Il y a quelques années, quand vous faisiez désinstaller, vous avez changé le pass. Il y avait une erreur dans la construction du pass et supprimer tout votre disque dur. C'est des choses qui sont simples et on peut se dire, ouais, c'est une petite erreur. Mais c'est des petites erreurs qui peuvent avoir des grosses conséquences. Donc, quand vous faites des scripts, testez-les. Moi, n'hésitez pas à faire, pour du bash, c'est un peu plus limité les outils de debug. Pour les autres langages, il y a à chaque fois des choses un peu mieux. Mais même si avec de l'écho, on s'en fout. Le principe, c'est juste de débugger, prenez soin de vos logiciels, gérez bien les erreurs, faites relire le code, faites des reviews de code. Et voilà, et testez-le dans des environnements où il n'y a pas de données de prod tout de suite, histoire d'être sûr du fonctionnement de celui-ci. Donc c'était mon petit rappel là-dessus, je vous mettrai des liens pour ce qui se passe. On n'a pas beaucoup plus d'informations, ça fait 7 jours maintenant qu'ils sont down pour ces clients-là, qui doivent sûrement commencer un peu à s'impatienter de voir toute une partie de leur SI, entre guillemets, qui est plantée. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous adorez la légèreté et l'efficacité de Jira et de Confluence? Bien sûr.
Moi, je peux en parler parce que j'adore les produits Atlassian, mais alors c'est vrai que, comme tu dis, le Confluence, dès que ta page elle a 10 macros et et 15 intégrations, c'est juste plus possible. Je me souviens qu'on était à un stade où on faisait des copies de pages sans les macros et tout pour que ce soit plus simple. Enfin, bref. Mais sur ce que tu racontes, je suis impressionné que j'étais passé à côté de cette info, mais alors qu'une boîte comme Atlassian, qui est quand même connu pour son côté ingénieur, etc., et un downtime aussi fort, même si c'est visiblement sur une toute petite portion de clients, c'est quand même pas anodin. Je sais plus dans quel podcast on parlait de tester les backups, la reprise d'activité, etc. Bon, bah, a priori, là, c'est un truc tellement hardcore que c'est vraiment très compliqué, ou sinon c'est qu'ils ont juste pas fait ça, mais ça serait étonnant. D'ailleurs, on a ce genre d'infos.
J'ai pas trouvé énormément d'informations. J'ai juste à la base entendu des gens qui râlaient un peu parce que ça commence à faire un peu long quand on paye un service premium et surtout le dashboard qui est rouge depuis maintenant une semaine. Donc ça c'est aussi un peu inquiétant, on va dire. Mais non, on n'a pas d'infos. Après, est-ce que c'est lié et ils ont, entre guillemets, ils ont peur d'impacter les autres sites, donc ils sont obligés de revérifier les données? Est-ce qu'il y a des corruptions, des choses comme ça? Il y a tellement, on va dire, de choses dans nos métiers qui peuvent un peu bloquer que je me méfie là-dessus maintenant du jugement hâtif, parce que on a des fois des sacrées surprises quand même.
Mais non, après, sinon, sur ce que tu as raconté sur tester les scripts, effectivement, hein, c'est rien sur la prod first try, hein, même si on est très confiant. Et moi, je sais que j'aurai des bonnes anecdotes pour le podcast de Christophe et René sur les fails, parce que ça m'est arrivé. J'ai été responsable, mais pas coupable. c'est pas de ma faute, et j'en parlerai plus tard. Mais bon, René, ça te parle cette histoire chez Atlassian là?
Je dirais oui. Ben voilà. Après, je pense que ça arrive. Après, c'est vrai que ça paraît vraiment long là pour remettre le service en place. C'est un peu curieux. Alors après, c'est difficile de savoir ce qui se passe, mais bon, c'est vrai que là, comme disait Damir, là, s'il y a toute la base documentaire, les tickets et tout qui ne fonctionne pas, c'est quand même, j'imagine, une grosse galère pour les entreprises. Voilà, puis pour citer qu'il y a d'autres alternatives à ces logiciels-là, notamment logiciels libres.
Après, au moins, vu que OpsGenie est down, les astreintes vont être plus calmes. Il faut positiver dans la vie, hein.
Ouais.
C'est vrai, peut-être que ça a encouragé certains à repenser leurs astreintes. Donc, Erwan faisait référence au Radio DevOps numéro 18 sur que faire en cas de désastre. Vous pourrez le retrouver dans la description. Si vous êtes sur YouTube, vous avez une fiche qui est apparue au moment où Erwan en parlait. Moi, j'utilise Atlassian uniquement, on utilise Trello et ça me gonfle royalement depuis plus d'un an. Et on va migrer, je pense. Très prochainement. J'ai utilisé Jira, j'ai jamais pu m'y faire. C'est trop lourd, trop pénible, trop chiant. On utilise, nous, vu la taille de nos équipes, on utilise les boards GitLab et ça suffit très largement avec les milestones et autres. Donc, bon. Par contre, c'est vrai que c'est long. J'ai pris une petite capture d'écran de leur page de statut et je pense que ce sera la miniature de notre podcast. Eh ben, je crois que c'est le moment que tout le monde attend, c'est les outils. On va parler des outils et c'est René qui va commencer avec un outil que je connais et que j'aime beaucoup.
Oui, ben, je vais parler d'un outil un peu qui dure dans le temps, quoi. C'est pas un truc qui vient de sortir. C'est Vim Moi, je suis un utilisateur, c'est mon principal outil pour éditer du texte ou développer, etc. Et notamment, c'est un outil qu'on peut enrichir avec beaucoup de plugins. Alors, c'est vrai qu'en tant que parfois système admin, on évite de le faire pour ne pas prendre trop d'habitude et pas se retrouver un petit peu en en perdition quand on n'a pas les plugins sur certaines machines. Mais bon, pour éditer sur son laptop, il y a quand même des plugins très efficaces. Et c'est une des difficultés, c'est qu'il faut un peu faire l'intégration de tous ces plugins-là. Et voilà, il y a deux sites dont je me servais juste là maintenant pour, on va dire, faire un premier jet. Le premier, c'est il s'appelle vimbootstrap.com. Donc ça permet de choisir un peu les langages qu'on utilise et il va sortir un VimRC, qui est le fichier de configuration de Vim, ou l'équivalent pour NeoVim, avec un certain nombre de plugins et de choix de configuration. Donc ça permet de partir avec un existant et ensuite de le customiser. Et donc ça, jusqu'à maintenant, j'utilisais ça. Et là, depuis peu, et je pense que j'ai attrapé l'information sur chez Olivier Poncé, il y a une autre distribution de Vim qui s'appelle AstroVim, qui s'appuie sur Neo, qui est un petit peu la même chose, un choix de plugin un petit peu intégré pour NeoVim. Alors qu'est-ce que ça apporte? NeoVim, c'est beaucoup mieux géré au niveau du multithreading des plugins, c'est-à-dire on ne peut pas se retrouver avec un plugin qui va bloquer complètement l'interface. Ça permet aussi d'écrire des plugins en Lua. NeoVim, c'est un fork de Vim, mais réécrit de manière un peu plus moderne. Et aussi, une des améliorations assez importantes qui a été amenée, c'est le LSP natif, donc Language Server Processing, donc un moteur pour faire toutes les, les complétions de code, etc., qui est natif, du coup relativement performant. Et je suis en train d'expérimenter ça. Il y a des choses très intéressantes, notamment il y a des rappels de commandes, parce que parfois on peut oublier un peu les commandes. Et voilà, donc je partage ce... et je vous conseille d'essayer si vous êtes fan de Vim, parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa.
C'est vrai que moi j'utilise Vim aussi depuis maintenant assez longtemps pour développer. À la base j'étais sur Eclipse, fut une époque passée. Et puis après, quand j'ai un peu continué, je suis passé sur Vim parce que je voulais faire je faisais des trucs plus basiques et pour le coup je voulais un peu comprendre comment ça marchait. On perd beaucoup de temps au début à essayer de comprendre comment ça marche. C'est un éditeur modal, donc on n'a pas forcément l'habitude. Mais je pense qu'il y a toujours un intérêt à l'utiliser. C'est quelque chose qui en fait change pas entre guillemets. Un Vim, si je l'avais appris au début de ma carrière, j'aurais pas changé, alors que je pense que si je n'avais pas eu des Vim, je serais passé par probablement du coup Eclipse, après je serais probablement passé par du Atom, après probablement du VS Code. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on apprend bien. Et comme tu dis, ouais, les packages sont, les plugins, il y a vraiment une pelletée. Et là, NeoVim, moi c'est pareil, je pense qu'on a un peu la même situation. J'étais sur Vim depuis longtemps. J'avais du LSP et tout, mais ajouté à la mano avec des plugins. Et là, je suis en train de passer sur NeoVim petit à petit, maintenant qu'il y a pas mal de choses qui ont été apportées, notamment le Lua, qui est quand même super agréable, parce que les configs étaient vite bordéliques avant. Mais là, on peut faire des choses proprement avec des includes, etc. Donc là, on est sur quelque chose qui est devenu très propre et très mature. Donc je suis en train de migrer là-dessus. J'en parlerai sûrement dans un article. Mais ouais, c'est plutôt top. Et pour le coup, ce dont tu parlais, AstroVim, il y en a plusieurs qui ont profité de NeoVim pour un peu pousser les gens à réutiliser NeoVim en packageant en fait un tas de choses, notamment en utilisant beaucoup LSP, qui est un truc qui manquait souvent aux devs nativement sur Vim, pour un peu pousser ça aussi, parce que c'est quelque chose qui a été poussé à la base par VS Code. Donc on peut réutiliser toutes les applets de VS Code, ce qui rend les possibilités très grandes en fait. Mais j'en ferai sûrement un article quand j'aurai fini ma migration proprement.
Moi, pour la petite histoire, je suis un vieux de la vieille, alors j'utilise VI depuis trop longtemps. Il y a quelques temps, il y a 7-8 ans, je m'étais mis à Vim avec. J'avais packagé mon Vim avec Tmux pour me faire des environnements de développement entièrement dans le terminal. Ça marchait super bien parce que j'avais à l'époque un portable qui n'était pas très très puissant. Donc je pouvais lancer ça dans mon terminal. J'avais pas d'éditeur autre que ce qui était dans le terminal. Et c'est vrai que c'est bien, parce que avec tous les plugins qu'on peut ajouter sur notre laptop, ça permet de développer quand même facilement et de garder cette habitude d'utiliser VI qu'on retrouve de toute façon sur tous les serveurs, et donc de pouvoir éditer n'importe quel fichier sur les serveurs, on n'est pas dépaysé, parce que c'est vrai que quand on utilise VS Codeium, on a tendance à oublier les raccourcis. Moi, je les oublie pas parce que même dans VS Codeium, je les tape. Donc, c'est plutôt le contraire. Le problème, c'est que j'ai pris mes habitudes depuis trop longtemps. Et bien, en tout cas, je ne peux que vous encourager à utiliser Vim si vous avez en tout cas des laptops légers et que vous pouvez pas lancer des IDE type VS Code ou autre.
Moi, je rajouterais juste, tout ce que vous avez dit, c'est top. Mais je rajouterais juste qu'il y a un compte Twitter que je trouve plutôt bien, qui s'appelle Vim Tips Daily. Et en fait, tous les X temps, il y a un bot qui va chercher des tips sur un repo sur lequel plein de gens contribuent pour mettre des tips. Et il y a souvent des moi, je le suis. Il y a souvent des trucs un peu rigolos dedans et qui vous permet de progresser en faisant de l'inception, en le voyant passer dans votre feed Twitter.
Il y a un truc qui est rigolo aussi, c'est Vim Golf. Où le but du jeu, c'est de modifier un texte. Donc, un texte de départ, un texte d'arrivée, de le modifier en faisant les combinaisons de touches les plus performantes, enfin, en faisant le moins possible de combinaisons de touches. Et alors, c'est un jeu, c'est sympa, mais au-delà du jeu, bah, ça permet des fois de. Alors après, il y a des gens qui sont extrêmes où ça devient vraiment. C'est très compliqué, mais par contre, ça permet de voir aussi comment les autres s'en servent et d'apprendre des choses. C'est pas mal.
Eh ben, merci. Damir, tu nous as trouvé un autre outil. Alors, c'est un peu plus qu'un outil.
Oui,
alors, là.
Pour le coup, c'est pas un outil, mais ça me semblait intéressant d'en parler parce que ça reste quand même la distribution Linux la plus utilisée, notamment sur du desktop et en entreprise. Moi, souvent, quand moi je suis en entreprise, par défaut, on met du GNOME, du Ubuntu. Décidément, j'ai du mal ce lundi. Mais pour le coup, ouais, non, Ubuntu en version du coup LTS, donc la long terme support. En 22.04 va sortir, il sort du coup ce mois-ci, c'est de là que vient le 0.4, et il sort le 21 si ma mémoire est bonne, et elle va apporter pas mal de choses. Alors moi personnellement, j'utilise plus depuis assez longtemps, et j'ai pas envie de spécialement l'utiliser, notamment à cause de l'utilisation massive de SnapD, mais à part ça, il y a quand même des choses intéressantes pour ceux qui l'utilisent, que je pense qu'il y en a dans nos auditeurs. Il va y avoir GNOME qui va passer en version 42, qui est la dernière version en date, et qui marche très bien, j'utilise depuis maintenant un peu plus d'un mois, et elle est vraiment topissime. Il y a Wayland qui va être désormais en serveur d'affichage par défaut, donc qui est le remplaçant de Xorg. Donc là, c'est intéressant. Faites néanmoins attention, il y a encore certains systèmes de conférences ou de choses en ligne qui ne fonctionneront pas pour le partage d'écran, ou en tout cas pas de manière complète comparé à ce qu'il y avait avant. Donc là-dessus, faites attention, n'hésitez pas à revenir sur Xorg des fois si vous avez trop de soucis. Il y aura bien sûr mise à jour du noyau, mise à jour de plein de packages, mais globalement, il y aura surtout les mises à jour là. Et GNOME va être sûrement, je pense, l'apport le plus intéressant avec le kernel pour ceux qui ont des PC récents. Mais voilà, ça me paraissait intéressant d'en parler, vu que c'est quand même la distribution majeure sur desktop, je pense.
Peut-être juste pour ajouter que ça s'est quand même aussi beaucoup amélioré, le support Wayland. Alors, moi, je n'utilise pas Ubuntu, je suis plutôt côté Fedora, mais... Donc il y a Wayland intégré depuis pas mal de temps, et aujourd'hui j'ai pas eu de soucis de partage d'écran ou de choses comme ça avec des outils classiques, on va dire. Donc ça, par rapport au début, ça s'est...
Je préviens, j'ai eu des trucs exotiques moi aussi. Hein.
Moi, j'ai hâte de l'installer sur mes machines, mais je vais attendre un petit peu. J'installe jamais les LTS quand elles sortent, j'attends toujours un 2 mois. Histoire que les premiers patchs sortent, parce que sinon c'est une catastrophe. Mais là, je dois réinstaller mon PC fixe, qui est en 18.4, donc il serait temps. Il serait temps.
Ouais, moi, c'est dans ma to-do.
Eh bien, écoutez, je vous ai ajouté un petit outil à la fin de la fin. C'est pas vraiment un outil. C'est une police de caractère. Donc, je vais vous parler de la police JetBrain Mono que j'ai découvert il y a quelques temps, il y a 2 mois. Donc, c'est une police qui a été travaillée par JetBrain. Ils ont fortement étudié, en fait, les polices, comment est-ce qu'on faisait du code, comment est-ce que on pouvait rendre une police dédiée au code plus lisible. Et ils ont sorti JetBrain Mono, qui est vraiment faite pour ça. Moi, je l'ai mis dans mes terminaux et je l'ai mis dans mon éditeur de code. Et je peux vous dire que à l'usage, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair. À taille équivalente, on y gagne en lisibilité, que ce soit pour le code ou pour le terminal. C'est vrai, elle est vraiment super bien pensée, cette police. En plus, elle est libre, donc vous pouvez l'installer, la mettre un peu de partout, dans vos terminaux, dans vos Vim, dans vos VS Codium, comme moi. Bref, allez l'installer. Je remercie aussi DocString, parce que c'est grâce à sa vidéo que je l'ai découverte. Donc, je vous mets le lien de la vidéo de DocString en description. Est-ce que vous avez déjà, vous, pensé qu'on pouvait changer les polices par défaut? Et bon, je pense que oui, mais est-ce que vous y avez déjà cherché une police qui vous permettait de gagner en lisibilité?
Bah, je peux répondre. Ouais, moi j'utilise des Nerdfont, donc des polices libres aussi, et il y en a une qui est équivalente de Source Code Pro. Et c'est un peu la même idée, alors je crois qu'elle s'appelle Source Code Pro, c'est la même idée, essayer de rendre la police le plus lisible possible et d'éviter les confusions de caractères, par exemple entre les I, les L, etc., ce genre de choses. Donc ouais, j'utilise depuis longtemps aussi.
Bah, là, je fais un tour sur le site que t'as mis en partage, et vraiment le site, il est sacrément bien foutu. Il y a plein de trucs pour voir facilement le avant après, etc., et pour qu'on puisse bien voir les différences, justement sur ce que René venait de citer avec les zéros, les grands L, les etc., grand I et tout. Et alors moi, j'avoue, j'ai jamais trop changé ça, mais c'est peut-être une bonne occasion de passer le pas. Je sais pas si je me fais avoir par le marketing du site, mais j'ai l'impression que ça pourrait bien.
Ouais, moi, j'avais cherché à un moment, j'avais changé. Je sais plus laquelle j'ai honnêtement, parce que du coup, je l'avais installé un coup et puis c'est bon. Mais effectivement, la mono, je l'avais déjà vu passer. Je m'étais dit, il faudrait que je teste, voir si ça améliore vraiment. Dans l'exhibité, testé 2-3 jours, mais il y a des chances que je teste à un moment donné.
Oui, alors c'est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en plus, il y a une gestion des ligatures, ce qui permet de rendre des ligatures qu'on utilise souvent dans le code, comme les doubles égales ou ce genre de choses, beaucoup plus lisibles. Et visuellement, c'est beaucoup plus élégant. En plus, la gestion de l'italique, etc., c'est vraiment bien. Je suis curieux d'aller regarder la police dont tu parles, René. Donc, si tu as un lien, si tu peux nous le donner, je le mettrai aussi en description.
Oui, c'est aussi des polices qui sont accompagnées de beaucoup d'icônes, en fait, libres, pour représenter un peu voilà, plein de choses, des dossiers, des GitHub, etc. Voilà. Mais je mets le lien dans les notes.
Eh ben, merci beaucoup. Alors, tu l'auras compris, on est arrivé à la fin de cet épisode. Donc, si tu veux discuter plus en avant de ces actualités ou d'autres choses, hein, parce que on est sur le forum des compagnons, on discute de pas mal de choses. En ce moment, il y a des discussions sur les méthodes d'installation de GitLab. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, ce genre de discussion. Voir sur comment gérer les nœuds Kubernetes. Je sais qu'il y a des sujets là-dessus qui sont très actifs en ce moment. Eh ben, tu peux venir en discuter avec nous. Il suffit de t'inscrire au forum des compagnons, c'est la communauté des compagnons du DevOps, et pour moi, ce sera mon mot de la fin, et moi, je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs, et cette fois-ci, on va pas commencer par René, parce qu'à chaque fois, il est surpris, on va commencer par Damir.
Préparez toujours toutes vos actus, tout ce que vous avez à présenter, faites comme moi, préparez tout à l'avance, et bien, comme ça, c'est carré. Voilà, voilà.
Ah, Erwan, quel est ton mot de la fin?
C'était bien cool d'échanger avec vous. J'ai encore appris pas mal de choses. Content aussi de repartager le podcast avec Damir. Ça faisait quelques temps. Et puis, comme là, j'ai rien sous la main, il n'y aura pas de mots comme les dernières fois. Et donc, je laisse la main à René.
Ben voilà, ben moi je tenais juste à m'excuser, je ne sais pas si ça sera coupé au montage de la petite interruption que j'ai eue. Et puis ben je vais rester classique, j'espère que l'épisode vous aura plu et que je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.